France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Kiki Picasso. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons Boxing de Mount Kimby. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui continuera à nous faire découvrir entre Montréal et Paris le dynamisme, la qualité de la littérature québécoise, invitée d'honneur du Festival du Livre de Paris. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Kiki Picasso.
Bonsoir.
Vous présentez l'exposition Bilan provisoire jusqu'au 7 mai à l'espace Niemeyer, au siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien à Paris. Et c'est un événement, car en plus de 40 ans de pratique, il ne s'agit que de votre troisième exposition personnelle. Un choix, bien sûr, dont nous allons parler en revenant sur quelques moments importants de votre parcours, en rappelant que vous êtes né à Nice, Christian Chapiron pour l'état civil, un père photographe sur les plateaux de cinéma, une mère mannequin, des parents qui fréquentent les membres de cette école de Nice, qu'on a appelé l'école de Nice, Armance, Poëri, Martial Rice, Yves Klein. Mais ce n'est pas, semble-t-il, ce qui vous sensibilise pour autant particulièrement à l'art, mais le fait que vos mauvaises notes à l'école amènent un conseiller d'orientation à dire à vos parents, bon, c'est soit la menuiserie, soit le dessin, et vous choisissez le dessin. Vous dites que vous n'aviez jamais vraiment dessiné, alors tout de même, quand même, vu le milieu dans lequel vous grandissiez, il y a quand même une sensibilité à l'art, non ?
Bien sûr, parce que j'avais une belle bibliothèque dans laquelle je fouillais beaucoup, et notamment dans les étagères du haut, qui n'étaient pas destinées aux enfants, donc... Je pense que ma culture graphique et artistique est issue de ces après-midi de fouilles dans la bibliothèque familiale.
Mais pour autant, vous ne dessinez pas ?
Très peu, un petit peu de temps en temps, mais oui, non, c'est venu vraiment tardivement, tout à coup, découvrir le... Je me suis retrouvé dans des écoles qui préparaient à l'entrée aux Beaux-Arts à l'époque. On rentre aux Beaux-Arts sans le bac, en ouais. plus. Hein. Je crois que je rentre aux Beaux-Arts presque à 17 ans, comme ça. Et c'est là que je rencontre tous mes camarades qui vont devenir les membres de Bazooka. On reste un an aux Beaux-Arts. Aucun de nous n'a le diplôme. Et tout de suite, on sort et on commence à faire nos propres journaux, d'abord en autoproduction. Et puis après, à droite, à gauche.
Alors ça, évidemment, on va y revenir. Mais avant, quand même, dans l'enfance, il y a quand même des souvenirs, et des souvenirs marquants, avec l'écoute de la radio, écoute clandestine, la nuit, en pension, en mai 68, Petite Madeleine.
La Sorbonne reste fermée et gardée. Assis sur la chaussée, 3000 étudiants déçus écoutent les commentaires de Daniel Cohn-Bendit. C'est la journée de la déception. La faculté de Nanterre est ouverte. Peu de cours, peu de lettres. Les étudiants n'ont pas cherché à occuper la fac. Le calme règne. La Sorbonne, quant à elle, est toujours bien gardée. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Des milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À d'enfer, un mot d'ordre a été lancé, occuper le quartier latin. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction. Des négociations commencent, et dans la nuit, la tension atteint son point culminant. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent, avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. L'aube s'est levée sur un spectacle désolant. On évacue encore des étudiants blessés. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence.
Alors, vous aviez à peine 12 ans, Kiki Picasso, en mai 68. Quand vous entendez ces sons de manifestation, quelles images vous avez en tête ?
D'abord, ma première image, c'est d'être en pension et de suivre tout ça en direct. Je me souviens que c'était aussi les émissions de José Arthur à l'époque, la nuit que j'écoutais, donc très petit. Mais je suivais en direct avec un tout petit transistor mis sous l'oreiller. J'entendais et je suivais ça. Et c'était en effet quelque chose d'incroyable. Et je me suis retrouvé dans la cour de la Sorbonne, d'ailleurs, parce que mon beau-père faisait des photos et il m'emmène dans la cour de la Sorbonne occupée. J'ai le souvenir de monter sur le socle d'une statue. Je devais déjà être un peu provocateur à l'époque. Tous les étudiants super engagés autour. Et pour rigoler, je crie « Vive De Gaulle !» Et tout le monde se retourne et rigole. C'était un gamin de 12 ans qui était en train de faire le con sur un socle de statues. Et les statues, il y avait les drapeaux rouges partout. Enfin, c'est des grands souvenirs, bien sûr.
Bon. Avec quelque chose qui agit en vous. Alors, effectivement, il y a cette entrée aux Beaux-Arts où vous allez rencontrer Loulou Picasso, Olivier Clavel, Lulu Larsen, Bernard Vidal, Philippe Bailly, les camarades avec qui vous allez créer ce groupe d'action artistique, Bazooka. Mais, comment vous vous êtes reconnus les uns les autres ? C'est quoi les affinités électives ?
Après, c'est déjà, on était tous très, très admiratifs. Bon, juste avant, on était tous à lire Pilote, Druillet, Gire, tous les grands dessinateurs, et bien avant même Hergé, c'est-à-dire tout le monde disait toujours du mal de Hergé, mais nous, c'était Hergé, c'est sacré, on n'a pas le droit de... Même Walt Disney aussi, c'est presque nos modèles. Mais en même temps, c'est l'arrivée en France de tout l'underground américain. Crumb, Shelton, Moscoso, Griffiths, tous ces auteurs qu'on trouve dans les librairies un peu spécialisées autour des Beaux-Arts. Et naturellement, ça, c'est un de nos premiers éléments. Bon, on avait cette culture de BD traditionnelle, mais l'arrivée des comics américains est complètement, c'est une illumination pour nous. Donc, on aime tous vraiment toutes ces images. Et quand on se retrouve aux Beaux-Arts, on a la volonté de faire un journal. Donc, pendant une année entière, dans cet atelier qui était un atelier de dessin, on s'est retrouvé là par hasard. Parce que moi, quand je rentre aux Beaux-Arts, je suis vraiment tout seul. Je dois avoir 17 ans. Je connais personne. Je vais d'abord dans un atelier de sculpture. Je me souviens, l'atelier Colamarini, qui était dans les Beaux-Arts. Tous les autres étudiants avaient moyenne d'âge 24 ans, c'était tous des gens se formant à la restauration, en train de taper sur des pierres en marbre, ça faisait ding ding ding. Moi, je suis là, je réussis pas à me faire des copains parce qu'ils sont trop vieux finalement tous ces gens. Et à un moment donné, je suis là à m'acharner sur ma pierre, mais ma pierre se casse en deux.
C'est un signe.
Et là, t'as pas de chance, c'était une couche de sédiments. Et de tristesse, j'ai abandonné mes études de sculpteur. J'ai cherché un autre endroit dans les Beaux-Arts et je suis atterri dans cet atelier où j'ai rencontré tous mes copains.
Alors, c'est vrai que l'école vous permet de travailler très librement à l'époque. Hein, vous y avez accès aux ateliers jour et nuit. Et donc,
totalement, c'était incroyable. Le niveau de liberté à l'intérieur des Beaux-Arts était exceptionnel.
Mais en même temps, ce qui fait ciment aussi, avec vos camarades de Bazooka, c'est quand même le rejet des institutions. Or, vous êtes quand même dans une institution, donc il ne s'agit pas d'y rester. Ce n'est pas que vous soyez admis ou pas à continuer, c'est juste qu'il faut aller ailleurs. Alors, il y a évidemment, on est quand même dans la mouvance de 68, quelques années après. Il y a les situationnistes qui sont là, qui vous intéressent. Sauf que contrairement à eux, vous avez de l'humour et vous aimez les images et vous aimez cette pop culture que les situs... Non, guère en odeur de sainteté, c'est quand même ça qui vous différencie. C'est l'envie d'embellir le monde, d'agir dans le monde.
Bien sûr, et surtout, les médias nous intéressent. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre à faire de la peinture et se retrouver dans les galeries, mais dès l'entrée, on se dit, le support, c'est pas la toile, le support, c'est les médias, les journaux. Parce qu'on voit, quand on se promène à Saint-Germain, que les galeries sont vides, il y a toujours juste une personne derrière un bureau, sur des parquets, c'est toujours désert et un peu triste. Donc nous, on se dit, le support, l'endroit dans lequel on veut s'exprimer, c'est les journaux. Notamment, les journaux, ils veulent pas de nous. Alors, finalement, on fait nos propres journaux. Voilà.
Ça commence comme ça.
En autoproduction. Voilà.
Et puis, autre moment, l'année 77, on va se faire un petit plaisir, moi, mais je pense que vous allez le partager aussi.
All right. Here it is. Again. And it's called... 1, 2, XU!
One, Two, XU, The Wire, extrait de leur premier album, Pink Flag, sorti en 1977, l'arrivée du punk.
Je me souviens bien de la pochette, ouais. D'ailleurs, très belle, oui.
Alors, Kiki Picasso, cette arrivée du punk, vous la vivez comment, vous?
Bah, avant, on est vraiment des babacool. Quand on est au lycée, bon, on écoute de très bonne musique, les Pink Floyd, bien sûr, les Doors, tous les groupes de cette époque. Mais en même temps, on aime bien Dr. Feelgood, MC5, les Flaming Groovies. Déjà, on écoute ça. Et tout à coup, clac, cette musique arrive. C'est vraiment une révélation. On est conquis. On doit être le premier journal traduisant les paroles en français de certains des groupes de cette époque, là, dans un de nos bulletins périodiques. Et on se coupe les cheveux, on a les pantalons à passe d'ef, on est avec les sabots en bois, on a les cheveux vraiment jusqu'à...
Aux épaules. Et là, changement.
Et là, du jour au lendemain, et même quelques mois avant, on fait un journal qui s'appelle « Bien dégagé sur les oreilles ». Mais « Bien dégagé sur les oreilles », c'était les fachos quand on fait journal, c'est pas du tout une référence au punk, c'était une sorte d'un peu de critique d'un certain milieu de l'époque, voilà, les étudiants d'Assas, voilà, qu'on croise dans la rue, et tout à coup on se coupe les cheveux et on découvre tous les groupes de cette époque, et cette énergie. Je vais à Londres aussi, plus ou moins à cette époque là c'est fou. À Paris, il y a quelques concerts, des gros concerts, les concerts KCP, c'était du gros concert comme ce qui peut passer à l'Accor Arena en ce moment. Mais à Londres, c'était fou. Il y avait un concert à 19h, à 20h, à 22h, jusqu'à 2h du matin. On passait de brasserie de pub en pub, dans lesquels il y avait les grands groupes de l'époque qui sont là sur scène. Et on rentre dedans, on boit juste une petite bière et on voit les plus grands groupes punk de l'époque qui jouent devant nous.
Ça fait rêver. Mais pour autant, quand même, il faut quand même préciser les choses. Bazooka, c'est pas nos futurs. Bazooka, c'est, encore une fois... embellir le monde en vous y impliquant. Alors, on a évoqué, il y a eu différents zines, bien dégagés autour des oreilles, activités sexuelles normales. Il y aura le magazine Bazooka, il y aura le journal bulletin périodique, très grand format, 48 cm de hauteur, mais l'implication, c'est aussi l'invitation que vous fait Serge Julie d'investir Libération, c'est 77, aussi.
Exactement, oui.
Et à Libération, vous allez faire des interventions. Vous allez prendre un peu le pouvoir, finalement, parce que vous arrivez, vous, juste avant le bouclage, et vous retouchez des photos, déjà, vous insérez des brèves. Bref, les choses sont... C'est de l'entrisme, en fait.
C'est, oui, mais enfin, non, c'était toujours dans une logique d'amélioration d'une maquette terriblement sinistre qui ressemble en gros à la maquette de la plupart des journaux d'aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais.
Mais nous, on est, quand on rentre à Libération, on est ce qu'on appelait à l'époque des bouche-trous. C'est-à-dire que les gens font les maquettes, et puis tout à coup, et la maquette, il n'y a pas d'ordinateur encore, c'est des bandes de texte collées sur des pages de maquettes. Et les secrétaires de rédaction qui calibrent tout se trompent. Alors, par exemple, ils nous disent t'as une surface de 10 cm par 10. Et puis finalement, on est seulement 5 par 6. Oh ben zut, on se dit, mais il suffit de soulever, de dépasser dans les marges. Et voilà, et ce qu'on fait, et comme on est au bouclage, les rédacteurs un peu durs sont déjà partis. Nous, on arrive vraiment au moment où il n'y a plus que la fabrication en action et 2-3 journalistes qui surveillent que tout aille bien. Et surtout, on est en autogestion à l'époque. Donc, très vite, on va à l'affrontement avec certains journalistes qui critiquent notre travail, qui demandent pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais, et qui essayent de nous renvoyer, d'ailleurs, de nous virer. Mais pour virer quelqu'un à ce moment-là, il fallait que tout le monde se réunisse, depuis le directeur de publication jusqu'aux gens qui faisaient le ménage la nuit. Est-ce qu'on vire Bazooka ? Alors après, comme dans les journaux encore aujourd'hui, il y a toujours un conflit entre la fabrication et la rédaction. Donc la fabrication, c'était tous nos copains. La culture, c'était tous nos copains. Et à chaque fois, ben non, les amis, les Bazooka, on les garde. Hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve pendant un certain temps. Et la seule chose qu'ils réussissent à faire, c'est d'ailleurs une idée de Serge Julli, c'est de nous dire, vous voulez pas avoir votre propre journal ? Ouais.
Faites donc mensuel.
Voilà. Et là, oh bah oui, parce qu'on dessinait comme ça en 3 minutes sur les coins de table avec 3 journalistes en train de nous engueuler dans le dos. On était très contents, bien évidemment, et surtout la folie de travailler dans un quotidien, d'avoir la réaction folle de... C'est-à-dire, on sortait à... Le journal était bouclé à 11h, on se retrouvait dans les restaurants africains en pleine nuit, arrivaient les gens qui vendaient les premiers numéros de Libération, et avec nos dessins dedans, c'était incroyable. Et l'impact de nos images, à ce moment-là, dans un journal quotidien, qui n'est plus du tout le même impact dans un hebdo, par exemple, l'information est prise, donc nos dessins ont une puissance de frappe émotionnelle très très forte, dont on profite presque instinctivement sans se rendre compte de l'impact de nos images qui, à ce moment-là, est incroyable.
Mais quand même, ça nous rapproche aussi déjà, et on en parlera plus largement tout à l'heure, mais de l'exposition actuelle à l'espace Niemeyer, parce que vous développez, avec ce travail, un goût quand même fort, très fort pour l'actualité que vous aviez déjà, mais avec les dépêches d'agence, avec les banques d'images, c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour vous, Picasso.
Bien sûr, il y a vraiment toutes les archives photographiques dans lesquelles on est. Il y a ce qu'on appelle les bellinos. Les bellinos, c'était les dépêches d'agence et les photos tombant 24 heures sur 24. Donc nous, on est la nuit dans Libération. Il y a les bellinos qui tournent. On prend les images et quasiment, avec des décalages de quelques heures, on est déjà... Je dirais, on dessine aussi vite qu'on fait un JT à l'époque ou un quotidien. On est vraiment à la cadence de production... quotidienne très forte comme ça, à suivre l'actualité. Et après, fasciné bien sûr par l'actualité, et c'est le regard moderne par la suite.
Le regard moderne qui durera 6 numéros, ce mensuel de Libé. C'est un peu le début de la fin aussi du groupe Bazooka, parce que si la drogue ou les drogues ont beaucoup servi, elles ont aussi beaucoup abîmé.
Abîmé, bien sûr, était un outil de travail, et un outil de travail, je dirais, la narcose que provoque la drogue à l'époque fait que quand on a 5-6 journalistes foudrage dans le dos en train de nous demander des comptes, on leur dit on s'en fout de ce que tu racontes, moi je suis en train de faire mes dessins, je m'éclate, je suis avec mes copains, j'en ai rien à cirer de ce que tu me dis, de tes critiques, et ça nous passe réellement au-dessus de la tête. Bien évidemment, sur la longueur, ça finit par être un peu toxique et ça aide à notre dissolution. Mais la fin du regard moderne, c'est aussi que l'affection qu'on avait des gens de Libération s'étiole dans la mesure où notre journal ne se vend pas et qu'ils sont toujours en limite de faillite.
Ouais.
Et des gentils dessinateurs qui faisaient rire les gens, on était ceux qui venaient de coûter un peu trop cher d'un dernier numéro qui partait au pilon. Et c'est comme ça qu'on finit par quitter Libération.
Alors viennent ensuite, Kiki Picasso, des années télé pour vous. D'abord avec Bazooka, mais vite en solo, ce qui vous amène à travailler sur la grande boîte de prod de l'époque du Pont Durand. De découvrir d'abord le Chiron 4, une des premières palettes électroniques. À l'époque, c'était pour faire les génériques télé. Et puis, le meilleur est à venir quand vous allez commencer à travailler pour Antenne 2 en 85, notamment sur l'émission de Christophe de Chavannes, c'est encore mieux l'après-midi. Et là, vous avez accès à la Penbox. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine et qu'est-ce que ça permet ?
La Penbox, en effet, il y a d'abord le Chiron 4, c'est tout à coup, on a ajouté un crayon au générateur de caractères qui servait à faire les lettrages dans les émissions de télé. Juste avant, j'étais en dessin animé traditionnel. Ouais. J'ai d'ailleurs travaillé dans la maison, là, je disais à votre camarade, votre assistante, dont il y avait des bancs titres et on passait les journées à faire de l'image, des programmes jeunesse, je viens plus pour Noël d'ailleurs, pour les enfants. Et tout à coup, en débarquant dans ces régies, je découvre les ordinateurs, et notamment la Penbox, qui serait le premier ordinateur à 16 millions de couleurs, qui sert d'ailleurs essentiellement dans les JT, bon, pour la pub, pour faire des effets spéciaux de pub, mais par exemple, je me retrouve avec et quand je suis dans l'émission de Chavannes, il m'appelle et il me donne le droit, une fois que le JT à 20h démarre, tous les studios des JT se ferment. Et moi, j'ai la clé, je dirais, de la seule Penbox nationalisée. Parce que c'est des machines qui valent une fortune. J'ai déjà un peu squatté à droite, à gauche, dans des régies comme Durand, Pipa, enfin tout, Micros, toutes les grosses boîtes qui commencent à avoir ces outils-là. Et là, je me retrouve avec la clé de cette Penbox. Jour et nuit, je peux travailler là-dedans et c'est vraiment génial. Je finis par me faire virer quand même aussi à un moment donné. Et là, oh, tristesse. Je finis aussi par me faire virer de toutes les grosses régies parce que les gens me disent « Kiki, tu te rends compte combien ça coûte ? Faut que tu nous ramènes des plans. » Et puis, j'ai les opérateurs de Penbox qui viennent jouer avec moi. Tout le monde découvre ces machines. Donc, ils passent la nuit blanche avec moi, sauf que le lendemain, il y a des gens de la pub qui démarrent. T'as encore travaillé Kiki toute la nuit, il y en a marre de Kiki qui dégage, tu vois. Bon, et à la fin, je finis par m'acheter les machines.
Voilà, vous faites ça avec d'abord la société Muse, et puis après, vous associez avec Michel Gavra, ce sera Arforce Industries. Mais pendant ce temps-là, quand même... Vous travaillez beaucoup pour la télé, vous travaillez donc, vous avez votre propre société pour toutes les chaînes qui font appel à vous. Qu'est-ce qu'il en est de votre pratique personnelle à ce moment-là ?
J'arrête pendant 10 ans de dessiner.
Rien.
Voilà, j'arrête complètement. Mais de toute façon, dès que je vois les premières palettes, après, comme j'ai toujours travaillé dans les journaux, on est toujours un peu dans l'immédiateté. Et vraiment, quand on t'appelle, il faut rendre le boulot. Quand on était à Libération, c'est dans les 4 minutes qui suivent. Ou de temps en temps, quand je travaillais pour la télé, les gens m'appelaient à 10h du soir. Il fallait rendre le boulot le lendemain à 11h. Donc, cette accélération du travail. Je me souviens, quand j'étais dessinateur, illustrateur traditionnel, si je devais rendre une image, j'y passais la nuit. Si je passais la nuit sur une Penbox... je sortais 20 images et 20 images qu'à l'époque personne n'avait vues parce que ces images c'est les premières images qui tombent enfin qu'on peut créer sur ces machines et après je reste associé à ma camarade Michel Gavras pendant 8 ans, on était associés tous les deux et au bout de 8 ans les Penbox partent à la casse, et c'est l'arrivée de la micro-informatique, et je dois dire, j'étais ravi, parce qu'on n'avait plus... Et après, j'ai travaillé pour la télé, parce qu'à ce moment-là, les ordinateurs, on travaille pas pour la presse. D'abord, la presse n'a pas les moyens de se payer ces machines qui valent très très cher en location, donc on ne peut travailler pour la télé. C'est comme ça que je finis, à la télé, dans l'habillage d'antenne, surtout, à travailler...
C'est là qu'il y a les moyens.
C'est là qu'il y a les moyens, et puis surtout... Il n'y a que là qu'on peut jouer avec ce genre de machine. Ces machines adaptées à la vidéo, on est basse def encore. On est avec la télé en 625 lignes, donc on n'est pas adapté au travail dans la presse. J'ai réussi à faire une couverture d'actuel, de ci, de là, des couvertures, mais... Voilà, la DEF n'est pas là. La DEF va arriver beaucoup plus tardivement sur tout ce type d'appareil. Alors,
on va faire découvrir maintenant votre choix musical, Kiki Picasso, changer un peu de registre. Alors, vous nous aviez proposé deux, Le Loup, Meylan, votre fille, mais Ludivine Sagnier, qui était venue dans cette émission il y a quelques mois, l'avait déjà choisi. Alors, on va écouter l'autre choix que vous nous avez proposé, It's a Long Way, un morceau de Pink Noise. Pourquoi ce choix, Kiki Picasso ?
Ah ben là, parce que c'est la musique de mes enfants, mais c'est marrant parce que ce soir, on est en nocturne à l'espace Némeyer, et sous la rotonde, je passe un programme de 2 heures de vidéos de mes enfants, et j'étais à peine hier après-midi en train de boucler ça, j'avais les larmes aux yeux en voyant à quel point ils avaient fait des choses merveilleuses, à quel point mes enfants étaient des grands artistes.
Meylan et Kim Chapiron. C'est jusqu'à 23h ce soir, hein, pour celles et ceux qui peuvent
voilà, si vous êtes à côté de l'espace Némeyer, on est en nocturne jusqu'à 23h.
Et je ne l'ai pas encore dit, mais c'est gratuit l'entrée
c'est
de
gratuit,
cette exposition.
Bien évidemment.
Non, mais il faut quand même le dire. Donc rendez-vous ce soir à Place du Colonel Fabien. On écoute Pink Noise.
It's a long way, my friend. It's a long way. It's a long way, my friend. It's a long way. It's a long way.
I saw the magic in your eyes. Saw the truth in your lies. You got it's just beauty disguised. Saw the light in my nightmares. Then I thought you were right here. Then I woke up and realized it's a light here between us.
Saw the lows in your heights. The beauty that you are is just evil disguised. I saw the bed of my nightmares.
Nothing like us.
It's a Long Way de Pink Noise. On aura entendu notamment la voix de votre fille Mayline, mais on parlait de votre fils aussi, le cinéaste, réalisateur Kim Chapiron. Je l'avais reçu dans cette émission il y a tout juste un an, au moment où sortait son film Le Jeune Imam. Écoutez ce court extrait.
Vous parliez du collectif de mon père, Kiki Picasso, Bazooka. Nous, le collectif Courte Rajmé, bien évidemment, était inspiré du collectif de mon père. On est arrivé avec ce slogan « Seigneur, ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font ». On était complètement dans les mêmes codes et dans les mêmes gimmicks de provocation qu'avaient pu avoir mon père et ses acolytes de l'époque. Et sauf que c'était au goût des 90s, early 2000. Et donc, à cette époque-là, comme je vous le disais avant, on était une sorte de meute absolument incontrôlable. Et c'est de là qu'est née la grande liberté de Courte Rajmé.
Alors j'imagine, Kiki Picasso, que... Vous devez être heureux d'inspirer comme ça les jeunes générations, pas seulement vos enfants.
Oh ben, bien sûr. Et voilà, j'espère que quand on sort des écoles d'art, de cinéma, on a envie de changer le monde et de pas rentrer dans les trajectoires inscrites d'avance et d'avoir envie d'inventer de nouvelles formes d'expression, que ce soit cinématographique, littéraire ou pictural, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire, bien évidemment.
Alors parlons de peinture, justement. On parlait de votre peu de goût pour les galeries. Je ne suis pas sûr que vous ayez tout à fait changé d'avis, mais vous avez quand même, ces dernières années, exposé votre travail, mais alors toujours dans des conditions un peu particulières. En 2017, la Maison Rouge, Antoine de Galbert, vous avez commandé pour l'exposition « L'esprit français contre culture 69-89 », une série de grands formats pour revisiter les grands événements de l'actualité de ces années-là. En 2019, Éric de Chassé était le commissaire de l'exposition « Les chefs-d'œuvre de Kiki Picasso » à l'hôtel Beaubrun, que j'ai eu la chance de visiter. Et puis, donc, aujourd'hui, et jusqu'au 7 mai, cette exposition « Bilan provisoire » à l'espace Niemeyer, au siège du Parti communiste français, entrée gratuite, je le répète. C'est ouvert du mercredi au samedi, de 14h à 18h. Alors, 50 peintures liées à plus de 50 événements, on va l'expliquer, mais de l'histoire récente, ça commence en 1969 pour arriver à 2019. Avant d'en venir à la façon dont vous avez conçu ces toiles, est-ce que le point de départ, c'est justement la commande de la Maison Rouge ?
Bien sûr, mais la commande de la Maison Rouge, au début, c'était donc la contre-culture. Et moi-même, comme mes camarades de Bazooka, on a beaucoup travaillé pour les associations et les publications, je dirais, féministes, anti-homophobes, tout le début de cette Harakiri, Charlie Hebdo, bien sûr, pas Charlie Hebdo, mais Charlie Mensuel. Voilà, c'était nos papas, tous ces gens, on peut dire, et nos modèles, bien sûr. Mais perdu le fil, désolé.
L'origine, c'est l'exposition pour la Maison Rouge.
Ah voilà, pardon, oui, bien sûr.
Je vous en prie.
Donc eux, ils pensaient que j'allais accrocher des œuvres de cette époque réalisées. Ils me donnent un immense mur et c'est moi qui leur dis « Oh ben non, je ferais bien un ensemble de tableaux, chaque fois un tableau, un événement ou deux de la période, uniquement sur la France. » Donc là, je fais à cette occasion 20 tableaux grand format qui représentent un mur. Et au sortir de... Après, quand on est peintre, on se dit toujours quoi peindre. Il y a des tas de choses à peindre. Des petits chats, des femmes nues, des paysages. Donc, moi, vu que j'ai une technique un petit peu d'après photo, je peux passer du super gnangnan au ultra hardcore dans la minute qui suit. Mais ce sujet de traiter l'information, chose que j'avais déjà fait en effet en travaillant dans Libération et en travaillant dans des tas de journaux...
Mais l'information à chaud, ce qui était autre chose.
Voilà. Mais après même, par exemple, je fais un journal en 95 qui s'appelle Maintenant, un journal incroyable qui est, comment dire, on sort par exemple ce journal numéro 1, premier journal français qui évoque la participation de la France dans le génocide au Rwanda. Mais j'ai le souvenir, on sort et mon éditeur a des Minitel Roses. Tout ça est financé par les Minitel Roses. Et on sort une affiche 4x3 dans le métro. Maintenant, la France tue. Livrée, droguée, livrée au sida, prison pleine pour rien, génocide au Rwanda, etc. L'image est censurée par Métrobus, la régie publicitaire, pour atteinte à la fierté nationale. Après, il s'excuse parce que finalement, mon éditeur est un bon client de Métrobus avec toutes les affiches de 36-15 diverses. Donc notre affiche reste pendant quelques temps, plus longtemps, en 4x3 dans le métro. Mais n'empêche que notre premier numéro tiré à 100 000 exemplaires, on doit en vendre 1 500 exemplaires. En même temps, le contenu de ce journal, à l'époque, moi-même, j'étais là à me dire « mais ils sont dingues, les journalistes, moi je suis vraiment à l'image, bon voilà, mais j'y suis trop content ». Mais toutes les affaires évoquées dans maintenant 95 ont mis 10 ans à devenir, voilà, tout le monde dit c'est pas vrai. Et même sur le génocide du Rwanda, tous les grands journaux font de la désinformation. Bon, je ne sais pas comment, pourquoi à l'époque, on est face à cette réelle désinformation. Et par exemple, le premier numéro de maintenant, c'est le premier journal qui publie un interview de Colette Braeckman, publié dans Le Soir, qui serait l'équivalent du Monde belge, que nous, et d'ailleurs, le truc amusant, c'est qu'il est illustré par mes enfants, qui sont tout petits, par des dessins d'enfants, par Mylan et Kim, ouais. Voilà, dans ce premier numéro, c'est qu'ils font les images comme ça, avec les Tutsis, les Hutus.
Mais ce qui est très impressionnant dans cette exposition à l'espace Niemeyer, c'est que alors vous retrouvez donc autrement ce que vous aviez expérimenté alors durant les années de libération et ensuite avec maintenant par exemple, mais on a ici un regard, votre regard pour un retour sur ce qui a fait l'actualité ces 50 pendant 50 ans. L'historien de l'art Éric de Chassé, qui était le commissaire de l'exposition Anthony Beaubrun, signe un court texte pour cette nouvelle exposition qui le titre fort justement Kiki Picasso, peintre d'histoire, car c'est bien en effet notre histoire, mais aussi ces bégaiements que vous mettez en image, des tristes répétitions. On commence par le commencement. Comment est-ce que vous choisissez les images sources de vos tableaux? Comment définir quelles sont, parce qu'il peut y avoir des montages, on va parler de ça, les images qui disent le mieux le monde, parce que selon les tableaux, il y a parfois une image source, parfois montage. Si l'on prend des images singulières, on va donner quelques exemples, ce sera peut-être plus parlant. Le tableau de 2013, on a Xi Jinping, qui vient d'être officiellement élu président de la République populaire de Chine lors de la session plénière de l'Assemblée nationale populaire. Je me rappelle très bien de cette image, parce qu'il est quasiment seul dans ce qu'on imagine être une sorte d'assemblée. Il y a juste un type derrière, comme ça, qui applaudit, il est là, il se lève, il a ce petit sourire. Alors pourquoi cette image-là, Kiki Picasso, pour 2013, pardon?
C'est lui-même qui s'applaudit derrière. C'est-à-dire, oui, il est là devant, mais c'est lui-même qui est sur le fauteuil, donc il s'applaudit et il y a son nom partout sur les pupitres, devant les chaises des divers membres de cette assemblée. Après, c'est quand même toujours de chercher du sens. D'une certaine façon, je sélectionne les événements. Certains que j'ai vécu, sur lesquels j'étais dans des journaux d'information au moment, donc j'illustrais, je suivais de façon permanente l'actualité, et j'ai en effet une réelle fascination pour l'actualité. Après, il y a un engagement bien sûr politique depuis toujours, ancré à gauche. Moi, je me définirais comme extrême gauche, ultra woke, par exemple, aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, je me retrouve avec le Parti communiste, mais tout le monde a peur de la montée de la droite, et en général, et je dirais même pas que de l'extrême droite, de la droite en général, mais si on essaye de se demander combien ils ont d'artistes, ces gens, combien M. Ciotti a d'artistes avec lui, combien Mme Maréchal Le Pen a d'artistes, combien, ils en ont aucun. On a quelques artistes très vieux ou décédés, qui encourageait les gens à voter, mais à l'instant, peut-être un ou deux comiques plutôt pas très drôles officiant sur Europe 1. Voilà, donc on pourrait dire la guerre est perdue d'avance pour eux. Malheureusement, finalement, peut-être le monde n'a pas besoin tant que ça d'artistes. En tout cas, eux, ils en ont pas besoin, peut-être, pour prendre le pouvoir. Mais on est là pour en tout cas faire en sorte qu'ils le prennent pas.
Je donne une autre image, un autre exemple, Kiki Picasso. Image source augmentée pour 95. On a le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, en tenue traditionnelle tahitienne, entouré par des vaïnés, sauf, image qu'on connaît, sauf que l'une des vaïnés a comme dans ses mains le symbole de l'atome, qui nous rappelle que une des premières choses que le président Chirac fait, c'est qu'il autorise à dernier essai nucléaire sur l'atoll de Mururoa. Donc ça, cette image-là, elle vient comment pour vous ?
Ben là, cette image-là, elle vient d'abord... Après, j'ai une fascination pour les images qui existent, ces images. Mmh. D'abord, elle vient de cette image magnifique de Chirac avec le collier de fleurs. Là. Après, l'événement en 95, je suis justement dans ce journal maintenant, à faire les doubles pages centrales. Le monde entier hurle, des manifestations dans le monde entier, rien ne les arrête. Quelques temps avant, c'était le Rainbow Warrior, c'était pas Chirac, c'était Mitterrand, qui va faire plastiquer
un bateau de Greenpeace
et il y a un mort. Donc après, l'engagement écologiste, même j'ai travaillé avec GB Fournier dans La Gueule Ouverte, par exemple, cet engagement, même dans ces époques-là, on est là à se dire, heureusement, on a une dramatisation qui commence peut-être à peine autour des problèmes écologiques dans le monde, mais on continue à se moquer de Greta Thunberg ouais. comme si c'était une folle. C'est vraiment particulièrement... heureusement que quelques personnes sont en train de vraiment prendre le risque de se faire ridiculiser par ceux qui ont rien compris de ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, le truc, c'est de... À la fois, après, la critique est dans le regard des gens. C'est-à-dire, je suis pas comme... Quand je dessine quelqu'un qui est pas très sympathique, je vais jamais le faire moche. Non. C'est-à-dire, quand je dessine Marine Le Pen, je veux la faire la plus belle possible. Quand je dessine Chirac, le plus sympathique possible. C'est quelque chose qu'on avait commencé, d'ailleurs, quand on faisait le regard moderne. Mmh. À faire des portraits de Ceausescu, avec un grand sourire. Voilà, donc je pense que les personnages toxiques de l'histoire contemporaine et de l'actualité sont bien plus dangereux quand on les fait souriants que quand on en fait la caricature.
Il me reste à dire, parce qu'on a donné que quelques images, mais que cette expo est vraiment d'une très 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 grande richesse. Il faut prendre beaucoup de temps, aller plusieurs fois, c'est gratuit, à l'espace Niemeyer d'ici au 7 mai pour aller voir cette exposition bilan provisoire. C'est du mercredi au samedi de 14h à 18h et ce soir, si vous êtes par là, c'est nocturne jusqu'à 23h. Merci Guy Picasso d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup, monsieur Laporte.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Voilà un virage qui aurait pu en envoyer plus d'un dans le décor. Pourtant, contrairement à l'image de voitures crachées sur le bas-côté qui figure sur la pochette de leur nouvel album, The Sunset Violent, les Anglais de Mount Kimby ont su garder le cap malgré un changement de style radical. De la post-dubstep de leur début, il ne reste plus grand-chose. Dominique Maker et Kai Campos s'étaient pourtant fait un nom sur la scène électronique expérimentale avec leur premier disque Crooks and Lovers, qui leur avait valu une signature sur le label Warp et des demandes de remix en tout genre. Proche de James Blake, Dominique Maker et Kai Campos ont, depuis ce premier jet en 2010, toujours cherché à se renouveler, au point d'abandonner dans The Sunset Violent le tout électronique au profit de guitares saturées façon noise pop et shoegaze. Sans crier gare, Mount Kimby est devenu un groupe de rock, mieux un bon groupe de rock. Et quand leur ami King Krul s'en mêle, le virage est plus que réussi. Voici Boxing, notre son du jour.
I'm weeping.
C'était Boxing de Mount Kimby avec King Cole. Ils seront en concert à La Cigale le 30 avril.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Montréal, juste avant l'ouverture du Festival du Livre de Paris qui met à l'honneur cette année la littérature québécoise.
Je suis Jean-Baptiste Passé, je suis le directeur général du Festival du Livre de Paris.
Et le festival, cette année, a choisi le Québec comme invité d'honneur. Pourquoi ce choix ?
Eh bien parce qu'après 25 ans, la dernière invitation du Québec était en 99. Il nous a semblé intéressant de montrer à tous les amateurs du livre combien la scène québécoise était vivante, originale et nécessaire.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment ont été choisis les auteurs et les autrices qui vont être là à Paris ?
Ah, c'est toujours un numéro d'équilibriste. On essaie à la fois de construire le plus beau panorama en réunissant les auteurs confirmés, ceux qui sont déjà connus en France, mais aussi des plumes plus émergentes. Il y a une tendance qui est très importante aujourd'hui autour du polar, autour de la littérature autochtone. Voilà, c'est l'ensemble de ces équilibres qu'on essaie de composer à travers les 40 auteurs qu'on a le plaisir d'inviter.
Le Festival du Livre se tient encore pour une année au Grand Palais éphémère. Bientôt, il rejoindra le Grand Palais, on l'espère, quand les travaux seront finis. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cette année, en plus de l'invité d'honneur, à quoi il va ressembler ce Festival du Livre ?
Eh bien, il aura une coloration peut-être olympique, puisque en marge de, oui, évidemment, puisqu'en marge de ce festival qui va réunir près de 330 auteurs, vraiment avec énormément de diversité, il y aura des romanciers, il y aura des essayistes, il y aura une place importante à la bande dessinée, toujours dans une démarche très hybride.
Mais on y vient pour voir des auteurs, il y a beaucoup d'auteurs en dédicace, vous l'avez dit, mais on y vient aussi pour acheter du livre. L'aspect commercial, il représente quoi dans ce festival ?
Alors, peut-être pour le dire en quelques chiffres, c'est sensiblement 90 000 livres vendus en 3 jours. Alors, globalement, ça ressemble à une librairie la veille de Noël. Hein. C'est à peu près ça l'ambiance.
Pourtant, nous sommes en avril.
Et pourtant, nous sommes en avril. Donc, ce qui fait du festival le plus gros lieu de vente de livres en France. Et donc, la dimension commerciale est importante, évidemment. Mais on essaie de l'équilibrer avec une ambition culturelle forte. Il y aura près de 165 conférences.
On parlait du Québec en termes littéraires, mais est-ce que c'est aussi un événement diplomatique d'inviter comme ça un pays ou ici une région à l'honneur au Festival du Livre de Paris.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment le croisement entre un intérêt pour la filière. Donc, il était important pour l'édition québécoise d'être invité d'honneur à Paris. Mais tout ça prend aussi une dimension plus diplomatique. On a 3 ministères qui concourent au financement de cette invitation. Le ministère de la langue française, le ministère des Affaires internationales et puis le ministère de la culture et de la communication. Donc, je dirais que particulièrement cette année où la francophonie va aussi être un élément important de la diplomatie française et internationale, cette invitation avait tout son sens.
Je m'appelle Christine Brouillet, je suis auteure de romans noirs et j'ai publié aux éditions Druide.
Et vous nous accueillez ici pour nous faire non seulement un point sur les maisons d'édition au Québec qui publient du roman noir, mais aussi les auteurs. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots s'il y a des caractéristiques du polar ici au Québec?
Les caractéristiques du polar, effectivement, c'est l'idée d'utiliser le territoire. Alors, il y a des polars qui sont très urbains, Montréal, Québec, les plus grosses villes, mais il y a également des polars qui se passent, mais très, très éloignés des centres principaux. Je pense à la région de la Naudière, les cantons de l'Est, l'Estrie, tous les territoires existent et sont utilisés par les auteurs avec, ma foi, beaucoup de talent.
Donc ça permet de voyager, de lire du polar ici?
Ah ben voilà, moi si j'ai envie d'aller en Mauricie, je lis un polar de Maureen Martineau et si j'ai envie d'aller dans la Naudière, je vais lire un autre auteur. En fait, on peut se balader jusqu'en Abitibi, dans le nord du Québec, et ça c'est très chouette parce qu'on a des tons, des odeurs, des couleurs extrêmement variées d'un roman à l'autre.
C'est un genre assez nouveau?
Très nouveau, ça existe depuis une trentaine d'années. Alors, moi, j'étais un genre de vétéran. J'ai publié en 1982, mais par la suite, ça a pris une quinzaine d'années avant que les éditions à lire fassent vraiment un gros mouvement en publiant des romans noirs, des romans d'horreur. Et toutes les maisons d'édition, tout à coup, se sont mis à faire du polar. Ils se sont dit, ma foi, c'est un bon filon, allons-y. Et tant mieux, parce que c'est ce qui va faire, qui va donner une vitalité et une couleur à ce qu'on fait au Québec et qu'on a envie de faire découvrir à l'étranger, mais il faut qu'on soit quand même un petit groupe. Donc, les tons sont très variés. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Et là, au Festival du Livre à Paris, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le polar québécois, qu'est-ce que vous leur conseillez? conseiller?
Eh bien, sur place, il y aura Roxane Bouchard, qui a gagné le prix des lecteurs de Quai du Polar. Il y aura André Marois, qui écrit des choses absolument drôles. C'est de l'humour noir, mais vraiment très réussi, avec la Sainte Paix. Mon Dieu, j'ai adoré ce livre. Il y aura Patrick Sénécal, bien sûr. Et il y aura d'autres auteurs qui sont pas nécessaires, qui ont trouvé leur livre. En fait, ils seront pas sur place, mais vous pourrez les lire avec vraiment beaucoup de bonheur. Moi, je pense à, j'ai cité Maureen Martineau, mais oui, Martin Michaud, oui. On a vraiment François Lévesque. Donc, mon Dieu, je peux pas tous vous les nommer, mais moi, j'ai beaucoup de chouchous, donc c'est plus des chouchous, j'en ai beaucoup. Mais notre littérature est de plus en plus riche et j'en suis vraiment très fière et j'en profite vraiment, je lis sans arrêt.
Merci beaucoup.
Ça
vous serez à Paris aussi?
Oh, je vais être à Paris.
On pourra aussi venir vous voir.
Bien sûr, avec grand bonheur.
Merci beaucoup.
Merci.
Je m'appelle Simon-Philippe Turcot, je suis le directeur général des éditions La Peuplade.
Qu'est-ce que ça représente pour une maison d'édition comme la vôtre que le Salon du Livre de Paris choisisse le Québec comme invité d'honneur?
Il y a beaucoup de travail qui a été fait par les éditeurs québécois, entre autres, on en fait partie, mais aussi par les éditeurs français autour de la littérature québécoise dans les dernières années. On a vu, c'est un peu le point culminant cette année avec le succès de Kevin Lambert, par exemple.
Prix Médicis cette année.
Exactement, ou d'Éric Chacour. Mais il y a eu aussi d'autres magnifiques succès, comme Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, par exemple, ou les romans de Christian Guay-Poliquin, donc son triptyque fabuleux dont on connaît bien le poids de la neige. Il y a des auteurs comme ça qui ont été repérés par les éditeurs français et il y a certains éditeurs québécois, dont La Peuplade, qui ont choisi de diffuser directement leurs œuvres sur le territoire européen, tout simplement. Et puis, le Festival du Livre de Paris, c'est un peu la réponse à tous ces efforts collectifs, je crois. Voilà.
Sur la littérature québécoise, justement, est-ce que les retours sont les mêmes ici au Québec ou à Paris? Est-ce que certains livres québécois sont plus lus à Paris qu'au Québec et inversement?
Oui, ça peut arriver. Non, ça, c'est intéressant, justement, quand on travaille vraiment les deux territoires et ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc, les libraires ne sont pas les mêmes, les journalistes ne sont pas les mêmes et donc et les lecteurs non plus. Comme Les marins ne savent pas nager, que nous avons publié à La Peuplade, s'est vendu davantage en Europe qu'au Québec, alors qu'il a gagné ici le prix des libraires du Québec. C'est un best-seller ici également, mais malgré tout, donc l'enthousiasme en France, en Belgique, pour ce livre-là a été vraiment fulgurant. Et puis, les ventes ont été encore plus importantes. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver.
Est-ce que vous avez l'impression que le marché regarde toujours vers la France ou est-ce que, quand même, la littérature québécoise se renforce et prend son autonomie aujourd'hui et vit sans forcément ce regard vers l'Europe?
Oui, je crois que c'est une littérature qui vit toute seule très bien maintenant. C'est un marché qui s'autosuffit jusqu'à un certain point. C'est une littérature très vivante aussi, qui prend des risques, ne serait-ce que dans le style, dans la liberté de la parole. Il y a des très belles choses qui se font ici. Et le marché est une très belle vigueur. Donc, il y a un lectorat pour la littérature québécoise ici, tout à fait. Et puis, beaucoup de jeunes lecteurs aussi qui s'y intéressent.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien voilà, après la découverte de toutes ces maisons d'édition et de la richesse et de la variété de la littérature québécoise, eh bien, nous voilà de nouveau à Paris puisque s'ouvre aujourd'hui le Festival du Livre au Grand Palais éphémère et je vous propose d'assister ensemble à l'inauguration du pavillon québécois, donc l'invité d'honneur de cette édition.
Quelle vue magnifique, n'est-ce pas? Je crois qu'on a réservé pour notre invité d'honneur la plus belle vue de Paris. Et alors, d'inaugurer le pavillon québécois après l'inauguration officielle du Festival du Livre de Paris, je dois vous dire, chers amis, que la littérature québécoise a le vent dans les voiles. 25 ans après la dernière mise à l'honneur du Québec, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir, d'accueillir finalement une nouvelle génération d'auteurs et d'éditeurs. Aussi, par vous, avec vous et grâce à vous, ces trois jours vont être étincelants. J'appelle Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec.
Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous voir ici. Je vais vous dire, plaisir doublé parce que je vous vois, vous êtes tous beaux et belles et je vois la Tour Eiffel derrière vous. Donc ça se prend bien quand même ce soir. Donc, chers amis, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour célébrer notre importante présence au Festival du Livre de Paris. Je crois sincèrement que le Québec a une voix, une sensibilité à offrir au monde et que notre littérature, nos auteurs, nos éditeurs sont les ambassadeurs de cette vision du monde et de cette créativité qui sont véhiculées dans les œuvres littéraires québécoises. Donc, vive les livres, vive le Québec, vive la France et vive le Festival du Livre de Paris. Merci. Bon festival.
Suite du Grand Tour, lundi, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Eh bien lundi, Arnaud, je vous propose de découvrir l'abbaye de Noirlac dans le Cher grâce à une visite sonore composée par des musiciens contemporains.
Merci Marie, à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche, Emma Roberti et Jeanne Agrabard.